L'encyclopédie, article Autorité politique, par Diderot. Autorité politique. Aucun homme n'a reçu de la nature le droit de commander aux autres. La liberté est un présent du ciel, et chaque individu de la même espèce a le droit d'en jouir aussitôt qu'il jouit de la raison. Si la nature a établi quelque autorité, c'est la puissance paternelle. Mais la puissance paternelle a ses bornes, et dans l'état de nature, elle finirait aussitôt que les enfants seraient en état de se conduire. Toute autre autorité vient d'une autre origine que de la nature. Qu'on examine bien, et l'on fera toujours remonter à l'une de ces deux sources, ou la force et la violence de celui qui s'en est emparé, ou le consentement de ceux qui s'y sont soumis par un contrat fait ou supposé entre eux et celui à qui ils ont déféré l'autorité. La puissance qui s'acquiert par la violence n'est qu'une usurpation et ne dure qu'autant que la force de celui qui commande l'emporte sur celle de ceux qui obéissent, en sorte que si ces derniers deviennent à leur tour les plus forts et qu'ils secouent le joug, ils le font avec autant de droit et de justice que l'autre qui le leur avait imposé. La même loi qui a fait l'autorité l'a défait alors. C'est la loi du plus fort. Quelquefois, l'autorité qui s'établit par la violence change de nature, serait-ce qu'elle continue et se maintient du consentement exprès de ceux qu'on a soumis. Mais elle rentre par là dans la seconde espèce dont je vais parler. Et celui qui se l'était arrogé, devenant alors prince, cesse d'être tyran. La puissance qui vient du consentement des peuples suppose nécessairement des conditions qui rendent l'usage légitime, utile à la société, avantageuse à la République, et qui la fixent et la restreignent entre des limites. Car l'homme ne doit ni ne peut se donner entièrement et sans réserve à un autre homme, parce qu'il a un maître supérieur au-dessus de tout, à qui seul il appartient tout entier. C'est Dieu, dont le pouvoir est toujours immédiat sur la créature, maître aussi jaloux qu'absolu, qui ne perd jamais de ses droits et ne les communique point. Il permet, pour le bien commun et pour le maintien de la société, que les hommes établissent entre eux un ordre de subordination, qu'ils obéissent à l'un d'eux. Mais il veut que ce soit par raison et avec mesure, et non pas aveuglement et sans réserve, afin que la créature ne s'arroge pas des droits du Créateur. Toute autre soumission est le véritable crime d'idolâtrie. Fléchir le genou devant un homme ou devant une image n'est qu'une cérémonie extérieure dont le vrai Dieu, qui demande le cœur et l'esprit, ne se soucie guère, et qu'il abandonne à l'institution des hommes pour en faire, comme lui conviendra, des marques d'un culte civil et politique ou d'un culte de religion. Ainsi, ce ne sont point ces cérémonies en elles-mêmes, mais l'esprit de leur établissement qui en rend la pratique innocente ou criminelle. Un Anglais n'a point de scrupule à servir le roi le genou en terre. Le cérémonial ne signifie pas ce qu'on a voulu qu'il signifiât, mais livrer son cœur, son esprit et sa conduite sans aucune réserve à la volonté et aux caprices d'une pure créature, en faire l'unique et le dernier motif de ses actions, c'est assurément un crime de lèse-majesté divine au premier chef. Autrement, ce pouvoir de Dieu dont on parle tant ne serait qu'un vain bruit, dont la politique humaine userait à sa fantaisie, et dont l'esprit d'irreligion pourrait se jouer à son tour, de sorte que toutes les idées de puissance et de subordination venant à se confondre, le prince jouerait de Dieu et le sujet du prince. La vraie et légitime puissance a donc nécessairement des bornes. Aussi l'Écriture nous dit-elle que votre soumission soit raisonnable, sit rationale obsequium vestrum. Toute puissance qui vient de Dieu est une puissance réglée, omnis potestas ad eo ordinata est. Car c'est ainsi qu'il faut entendre ces paroles, conformément à la droite raison et au sens littéral, et non conformément à l'interprétation de la bassesse et de la flatterie qui prétendent que toute puissance, quelle qu'elle soit, vient de Dieu. Quoi donc? N'y a-t-il point de puissance injuste? N'y a-t-il pas des autorités qui, loin de venir de Dieu, s'établissent contre ses ordres et contre sa volonté? Les usurpateurs ont-ils Dieu pour eux? Faut-il obéir en tout aux persécuteurs de la vraie religion? Et pour fermer la bouche à l'imbécilité, la puissance de l'Antéchrist sera-t-elle légitime? Ce sera pourtant une grande puissance. Enoch et Élie qui lui résisteront, seront-ils des rebelles et des séditieux qui auront oublié que toute puissance vient de Dieu? Ou des hommes raisonnables, fermes et pieux, qui sauront que toute puissance cesse de l'être dès qu'elle sort des bandes que la raison lui a prescrites et qu'elle s'écarte des règles que le souverain des princes a des sujets à établir? Des hommes enfin qui penseront, comme saint Paul, que toute puissance n'est de Dieu qu'autant qu'elle est juste et réglée. Le prince tient de ses sujets même l'autorité qu'il a sur eux. Et cette autorité est bornée par les lois de la nature et de l'État. Les lois de la nature et de l'État sont des conditions sous lesquelles ils se sont soumis ou sont censés s'être soumis à son gouvernement. L'une de ces conditions est que, n'ayant le pouvoir ni autorité sur eux que par leur choix et de leur consentement, il ne peut jamais employer cette autorité pour casser l'acte ou le contrat par lequel il lui a été déféré. Il agirait dès lors contre lui-même, puisque son autorité ne peut subsister que par le titre qu'il a établi. Qui annule l'un détruit l'autre. Le prince ne peut donc pas disposer de son pouvoir et de ses sujets sans le consentement de la nation et indépendamment du choix marqué dans le contrat de soumission. S'il en usait autrement, tout serait nul et les lois le relèveraient de promesses et des serments qu'il aurait pu faire, comme un mineur qui aurait agi sans connaissance de cause, puisqu'il aurait prétendu disposer de ce qu'il avait en dépôt et avec clause de substitution, de la même manière que s'il l'avait eu en toute propriété et sans aucune condition. D'ailleurs, le gouvernement, quoique héréditaire dans une famille, est mis entre les mains d'un seul, n'est pas un bien particulier, mais un bien public, qui par conséquent ne peut jamais être enlevé au peuple, à qui seul il appartient essentiellement et en pleine propriété. Aussi est-ce toujours lui qui en fait le bail. Il intervient toujours dans le contrat qui en a le juge d'exercice. Ce n'est pas l'État qui appartient au prince, c'est le prince qui appartient à l'État. Mais il appartient au prince de gouverner dans l'État, parce que l'État l'a choisi pour cela, qui s'est engagé envers les peuples à l'administration des affaires, et que ceux-ci, de leur côté, se sont engagés à lui obéir conformément aux lois. Celui qui porte la couronne peut bien s'en décharger absolument s'il le veut, mais il ne peut la remettre sur la tête d'un autre sans le consentement de la nation qu'il a mise sur la sienne. En un mot, la couronne, le gouvernement et l'autorité publique sont des biens dont le corps de la nation est propriétaire et dont les princes sont les usufruitiers, les ministres et les dépositaires. Quoique chefs de l'État, ils n'en sont pas moins membres, à la vérité, les premiers, les plus vulnérables et les plus puissants, pouvant tout pour gouverner, mais ne pouvant rien légitimement pour changer le gouvernement établi, ni pour mettre un autre chef à leur place. Le sceptre de Louis XV passe nécessairement à son fils aîné. Il n'y a aucune puissance qui puisse s'y opposer, ni celle de la nation, parce que c'est la condition du contrat, ni celle de son père, par la même raison. Le dépôt de l'autorité n'est quelquefois que pour un temps limité, comme dans la République romaine. Il est quelquefois pour la vie d'un seul homme, comme en Pologne. Quelquefois pour tout le temps que subsistera une famille, comme en Angleterre. Et quelquefois pour le temps que subsistera une famille par les mâles seulement, comme en France. Et ce dépôt est quelquefois confié à un certain ordre dans la société, quelquefois à plusieurs, choisis de tous les ordres, et quelquefois à un seul. Les conditions de ce pacte sont différentes dans les différents États. Mais partout où la nation est en droit de maintenir envers et contre tous le contrat qu'elle a fait. Aucune puissance ne peut le changer. Et quand il n'a plus lieu, elle rentre dans le droit et dans la pleine liberté d'en passer un nouveau, avec qui et comme il lui plaît. C'est ce qui arriverait en France si, par le plus grand des malheurs, la famille entière régnante venait à s'éteindre jusque dans ses moindres rejetons. Alors le sceptre et la couronne retourneraient à la nation. Il semble qu'il n'y ait que des esclaves dont l'esprit serait aussi borné que le cœur serait bas, qui puissent penser autrement. Ces sortes de gens ne sont nés ni pour la gloire du prince, ni pour l'avantage de la société. Ils n'ont ni vertu, ni grandeur d'âme. La crainte et l'intérêt sont les ressorts de leur conduite. La nature ne les produit que pour servir de lustre aux hommes vertueux. Et la providence s'en sert pour former les puissances tyranniques dont elle châtie pour l'ordinaire les peuples et les souverains qui offensent Dieu. Ceci en usurpant, cela en accordant trop à l'homme de ce pouvoir suprême que le Créateur s'est réservé sur la créature. L'observation des lois, la conservation de la liberté et l'amour de la patrie sont les sources fécondes de toutes grandes choses et de toutes belles actions. Là se trouve le bonheur des peuples et la véritable illustration des princes qui les gouvernent. Là, l'obéissance est glorieuse et le commandement auguste. Au contraire, la flatterie, l'intérêt particulier et l'esprit de servitude sont l'origine de tous les maux qui attablent un État et de toutes les lâchetés qu'il déshonore. Là, les sujets sont misérables, les princes haïs. Là, le monarque ne s'est jamais entendu proclamer le bien-aimé, la soumission y est honteuse et la domination cruelle. Si je rassemble sous un même point de vue la France et la Turquie, j'aperçois d'un côté une société d'hommes que la raison unit, que la vertu fait agir, et qu'un chef également sage et glorieux gouverne selon les lois de la justice, et de l'autre un troupeau d'animaux que l'habitude assemble, que la loi de la verge fait marcher, et qu'un maître absolu même selon son caprice. Mais pour donner au principe répandu dans cet article toute l'autorité qu'ils peuvent recevoir, appuyons-les du témoignage d'un de nos plus grands rois. Le discours qu'il tint à l'ouverture de l'Assemblée des Notables en 1596, plein d'une sincérité que les souverains ne connaissent guère, était bien digne des sentiments qu'il y porta. « Persuadé, dit M. de Sully, page 467, tome quarto, tome 1, que les rois sont deux souverains, Dieu et la loi, que la justice doit présider sur le trône, et que la douceur doit être assise à côté d'elle, que Dieu étant le vrai propriétaire de tous les royaumes, et les rois n'en étant que les administrateurs, ils doivent représenter au peuple celui dont ils tiennent la place. » Qu'ils ne régneront comme lui, qu'autant qu'ils régneront en père, que dans les états monarchiques, héréditaires, il y a une erreur qu'on peut appeler aussi héréditaire, c'est que le souverain est maître de la vie et des biens de tous ses sujets, et que moyennant ces quatre mots « tel est notre plaisir », il est dispensé de manifester les raisons de sa conduite, ou même d'en avoir, et que quand cela serait, il n'y a point d'imprudence pareille à celle de se faire haïr de ceux auxquels on est obligé de confier à chaque instant sa vie, et que c'est tomber dans ce malheur que d'emporter tout de vive force. Ce grand homme persuadé, dis-je, de ses principes, que tout l'artifice du courtisan ne bannira jamais du cœur de ceux qui lui ressembleront, déclara que pour éviter toute ère de violence et de contrainte, il n'avait pas voulu que l'Assemblée se fît par des députés nommés par le souverain, et toujours aveuglément asservi à toutes ses volontés, mais que son intention était qu'on y admît librement toutes sortes de personnes, de quelque état et condition qu'elles puissent être, afin que les gens de savoir et de mérite eussent le moyen d'y proposer sans crainte ce qui croirait nécessaire pour le bien public. et qui le prétendaient encore en ce moment leur prescrire aucune des bornes qui leur enjoignaient seulement de ne pas abuser de cette permission pour l'abaissement de l'autorité royale, qui est le principal nerf de l'État, de rétablir l'union entre ses membres, de soulager les peuples, de décharger le trésor royal de quantités de dettes auxquelles ils se voyaient sujets sans les avoir contractées, de modérer avec la même justice les pensions excessives, sans faire tort au nécessaire, afin d'établir pour l'avenir un fonds suffisant et clair pour l'entretien des gens de guerre. Il ajouta qu'il n'aurait aucune peine à se soumettre à des moyens qu'il n'aurait point imaginés lui-même. D'abord qu'il sentirait qu'ils avaient été dictés par un esprit d'équité et de désintéressement, et qu'on ne verrait point chercher dans son âge, dans son expérience, dans ses qualités personnelles, un prétexte bien moins frivole que celui dont les princes ont coutume de se servir pour éluder les règlements. Qu'il montrerait au contraire par son exemple, qui ne regarde pas moins les rois pour les faire observer que les sujets pour s'y soumettre. « Si je faisais gloire, continua-t-il, de passer pour un excellent orateur, j'aurais apporté ici plus de belles paroles que de bonne volonté. Mais mon ambition a quelque chose de plus haut que de bien parler. J'aspire au glorieux titre de libérateur et de restaurateur de la France. » Je ne vous ai donc point appelé, comme faisaient mes prédécesseurs, pour vous obliger d'approuver aveuglément mes volontés. Je vous ai fait assembler pour recevoir vos conseils, pour les croire, pour les suivre, en un mot, pour me mettre en tutelle entre vos mains. C'est une envie qui ne prend guère au roi, aux barbes grises et aux victorieux comme moi, mais l'amour que je porte à mes sujets et l'extrême désir que j'ai de conserver mon état me font trouver tout facile et tout honorable. » Ce discours achevé, Henri se leva et sortit, ne laissant que M. de Sully dans l'assemblée pour y communiquer les états, les mémoires et les papiers dont on pouvait avoir besoin. On ose proposer cette conduite pour modèle, parce qu'il y a des occasions où les princes peuvent avoir moins de déférence, sans toutefois s'écarter des sentiments qui font que le souverain dans la société se regarde comme le père de famille et de ses sujets comme ses enfants. Le grand monarque que nous venons de citer nous fournira encore l'exemple de cette sorte de douceur mêlée de fermeté, si requise dans les occasions où la raison est si visiblement du côté du souverain, qu'il a droit d'ôter à ses sujets la liberté du choix et de ne leur laisser que le parti de l'obéissance. L'édit de Nantes ayant été vérifié après bien des difficultés du Parlement, du clergé et de l'université, Henri IV dit aux évêques « Vous m'avez exhorté de mon devoir, je vous exhorte du vôtre. Faisons bien à l'envie les uns des autres. Mes prédécesseurs vous ont donné de belles paroles, mais moi, avec ma jaquette, je vous donnerai de bons effets. Je verrai vos cahiers et j'y répondrai le plus favorablement qu'il me sera possible. » Et il répondit au Parlement qui était venu lui faire des remontrances. « Vous me voyez dans mon cabinet où je viens vous parler, et non pas en habit royal, ni avec l'épée et la cape, comme mes prédécesseurs, mais vêtu comme un père de famille en pourpoint, pour parler familièrement à ses enfants. Ce que j'ai à vous dire est que je vous prie de vérifier l'édit que j'ai accordé à ceux de la religion. Ce que j'en ai fait est pour le bien de la paix. Je l'ai faite au dehors, je la veux faire au-dedans de mon royaume. » Et après leur avoir exposé les raisons qu'ils avaient eues de faire l'édit, il ajouta: ceux qui empêchent que mon édit ne passe veulent la guerre. Je la déclarerai demain à ceux de la religion. Mais je ne la ferai pas. Je les y enverrai. J'ai fait l'édit, je veux qu'il s'observe. Ma volonté devrait servir de raison. On ne demande jamais au prince dans un état qu'obéissant. Je suis roi, je vous parle au roi. Je veux être obéi. Même de Sully, In quarto, page 594, tome 1. Voilà comment il convient à un monarque de parler à ce sujet, quand il a évidemment la justice de son côté. Et pourquoi ne pourrait-il pas ce que peut tout homme qui a l'équité de son côté? Quant au sujet, la première loi que la religion, la raison et la nature leur imposent est de respecter eux-mêmes les conditions du contrat qu'ils ont fait, et de ne jamais perdre de vue la nature de leur gouvernement. En France, de ne point oublier que tant que la famille régnante subsistera par les mâles, rien ne dispensera jamais de l'obéissance, d'honorer et de craindre leur maître, comme celui par lequel ils ont voulu que l'image de Dieu leur fût présente et visible sur la terre, d'être encore attachés à ses sentiments par un motif de reconnaissance de la tranquillité et des biens dont ils jouissent à l'abri du nom royal. Et si jamais il leur arrivait d'avoir un rouage injuste, ambitieux et violent, de n'opposer au malheur qu'un seul remède, celui de l'apaiser par leur soumission et de fléchir Dieu par leur prière, parce que ce remède est le seul qui soit légitime en conséquence du contrat de soumission juré au prince régnant anciennement et à ses descendants par les mâles, quels qu'ils puissent être, et de considérer que tous ces motifs qu'on croit avoir de résister ne sont à les bien examiner qu'autant de prétextes d'infidélité subtilement colorés, et qu'avec cette conduite on n'a jamais corrigé les princes ni aboli les impôts, et qu'on a seulement ajouté au malheur dont on se plaignait déjà un nouveau degré de misère. Voilà les fondements sur lesquels les peuples et ceux qui les gouvernent pourraient établir leur bonheur réciproque.